17h46, Info Soir, c'est avec vous, Mickaël Juneski.
À la une de l'actualité, Emmanuel Macron invite les partenaires calédoniens au mois de juin. Le président de la République souhaite clarifier la situation après l'échec du conclave de Deva. La visite en Calédonie du vice-président LR, François-Xavier Bellamy. Il tient ce soir une réunion publique à l'hippodrome Henri Millard de Nouméa. Marine Le Pen aussi est arrivée sur le territoire. La chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale dénonce l'obsession institutionnelle dans l'outre-mer et affirme que l'essentiel doit être le développement économique et le rééquilibrage. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met en place des mesures en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat. L'exécutif veut s'appuyer sur des dispositifs exceptionnels pour aider la population. Au Congrès, le moratoire sur l'exploration et l'exploitation des ressources maritimes étudié en deuxième lecture. Il reste fixé à 50 ans, durée beaucoup trop longue selon les groupes loyalistes et rassemblements. L'actualité dans le Pacifique, une compagnie des forces armées fidjiennes va s'entraîner pendant 5 mois en Australie. Des militaires qui seront intégrés à une brigade de l'île continent à Brisbane. Et le sport du tennis, Nicolas Gaudrella jouera la Coupe Davis. 52 ans après son père, il pourra disputer la compétition sous les couleurs de l'équipe Océanie-Pacifique. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Le président de la République reprend la main dans le dossier calédonien. On attendait une initiative d'Emmanuel Macron depuis que Manuel Valls avait rendu publique sa proposition d'indépendance association. Elle est donc venue dans la nuit pour nous, Elisabeth Noir.
C'est un communiqué de l'Élysée qui annonce que le président de la République invitera avec le gouvernement les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie à venir travailler à Paris à partir de la mi-juin afin de clarifier les sujets économiques, politiques et institutionnels en vue de parvenir à un accord partagé sur l'avenir de l'archipel. Quelques lignes qui sonnent un peu comme un désaveu pour le ministre des Outre-mer qui avait déclaré il y a quelques jours sur LCI « Celui qui s'occupe à la demande du chef du gouvernement du dossier de la Nouvelle-Calédonie, c'est le ministre des Outre-mer, c'est moi, il n'y en a pas d'autre ». On note toutefois que le président de la République indique qu'il invitera les parties prenantes avec le gouvernement. On se souvient aussi que dès l'annonce d'un projet de souveraineté avec la France par le ministre des Outre-mer, Sonia Backès et Nicolas Metzdorf avaient joint le président de la République pour lui faire part de leurs inquiétudes. Emmanuel Macron leur avait déclaré qu'il était le responsable de l'intégrité nationale, ce qui laissait entendre que le chef de l'État et son ministre des Outre-mer n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Le député de la première circonscription a aussi été reçu vendredi dernier par le chef de l'État qui lui avait annoncé qu'il allait prendre une initiative afin de relancer les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors y a-t-il deux visions différentes de l'avenir du territoire ? On se souvient que le président de la République a déclaré à plusieurs reprises que la Calédonie restera française parce que les Calédoniens l'ont choisie. Mais Emmanuel Macron peut-il vraiment désavouer son ministre des Outre-mer qui a mis sur la table un projet d'indépendance association ? Il est trop tôt pour savoir comment les choses vont se passer, puisque Manuel Valls avait déclaré de son côté qu'il réunirait les partenaires calédoniens pour un comité de suivi avant la fin du mois de juin. Mais il semble clair que le président de la République, qui est actuellement en Indonésie, ne veut pas être tenu à l'écart du dossier calédonien.
Les réactions à l'annonce de la reprise en main du dossier calédonien par le président de la République. Sonia Backès, la chef de file des loyalistes, est intervenue auprès d'Emmanuel Macron juste après l'échec des discussions à Deva. Elle répondra à l'invitation du chef de l'État, mais elle relève que pour l'heure, le format de la rencontre reste encore vague.
On sait qu'on va être invité, on sait que les sujets sont plus larges que le sujet institutionnel. On sait également qu'il faut trouver à minima un accord pour pouvoir organiser les élections le plus rapidement possible. Dans son invitation, il est question de nous inviter avec le gouvernement. Et comme les sujets ne sont pas que institutionnels, je suppose qu'il n'y aura pas que le ministre des Outre-mer, mais je n'en sais rien.
Et pour sa part, Virginie Ruffnac, le chef du groupe Rassemblement au Congrès, se félicite de l'initiative d'Emmanuel Macron.
C'est une bonne chose que le président de la République prenne une initiative et reprenne la main dans un contexte où le ministre Valls a totalement mis un écran de fumée, très opaque, sur les discussions institutionnelles, en proposant une solution d'indépendance et en allant plus loin, même que ce que les indépendantistes réclamaient. C'est véritablement une escroquerie après trois référendums où les Calédoniens ont choisi de rester au sein de la République française. Dans ce contexte, effectivement, il est urgent important que le président de la République reprenne la main pour finalement s'occuper des Calédoniens qui sont aujourd'hui dans une immense détresse sociale, économique et puis je dirais morale et psychologique.
Le député européen François-Xavier Bellamy souhaite quant à lui que la parole de l'État soit claire sur le dossier calédonien.
Il fallait une nouvelle étape après l'échec d'Odeva et je pense que le président de la République montre qu'il a le souci de ne pas s'arrêter à cette proposition qui est un échec manifeste. Maintenant, il faut que la parole de l'État soit claire et que chacun prenne ses responsabilités. Le chef de l'État, il est garant de la souveraineté nationale. Il est temps de le montrer d'une manière extrêmement claire.
Marine Le Pen a elle aussi réagi à l'annonce d'une initiative d'Emmanuel Macron dans le dossier calédonien. Il lui a été demandé si cela était vain.
Non mais rien n'est jamais vain. Enfin, on ne peut pas dire à l'avance que c'est vain. Mais disons que j'ai le sentiment que l'échec de ces négociations est un peu un combat d'ego entre le ministre des Outre-mer et le président de la République. On n'avait vraiment pas besoin de ça.
Réaction enfin du secrétaire général de l'Union calédonienne, Dominique Fauchy.
On a vu le communiqué de l'Élysée, qui pour nous se situe dans la continuité de discussion. En tout cas, le FNK a une convention le week-end prochain. On va devoir traiter tous ces sujets. En tout cas, pour le FNKS, l'État a déposé un projet dans le cadre des dernières séquences de discussion. Pour nous, on ne descendra pas en dessous. Si les discussions se poursuivent, c'est pour nous le socle des discussions. En tout cas, le FNKS a acté la reprise du dialogue depuis le dernier congrès de Saint-Louis en janvier dernier pour porter notre projet d'accession à la pleine souveraineté et notamment les sujets incontournables qui ont été identifiés. Tous ces sujets-là qu'on va traiter en convention et on décidera de la suite à donner à partir de là.
La convention du FLNKS qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains. Autre réaction, celle d'Harold Martin. Le signataire de l'accord de Nouméa était en direct dans notre édition de la mi-journée, Elisabeth Noir.
Harold Martin venait commenter la situation politique depuis l'échec des discussions sur l'avenir institutionnel. Il a bien sûr été interrogé sur l'initiative du président de la République. Il y voit naturellement un désaveu de Manuel Valls. Et il s'indigne que le ministre des Outre-mer et puis proposer un projet d'indépendance association.
Comment un individu comme Valls, qui n'a pas le mandat pour, qui n'a pas la compétence pour, qui, de par lui-même, parce que sous prétexte que c'est son dossier, il n'arrête pas de le dire, c'est mon dossier, c'est le mien, c'est à personne d'autre, c'est à moi, enfin, il fait des crises là-dessus, il puisse aller aussi loin. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Moi, je considère que c'est une véritable forfaiture, une forfaiture. Il devrait être destitué pour avoir osé faire ça. De lui-même, tout seul, là, comme ça, il décide de larguer un morceau de la République française. Mais c'est pas possible.
Une forfaiture et dans ce contexte, le fait qu'Emmanuel Macron reprenne la main dans le dossier calédonien est une bonne nouvelle pour Harold Martin.
Moi, je considère qu'on a gagné. Aujourd'hui, on a gagné. On n'a pas gagné le match encore, le match n'est pas fini, bien sûr. Mais on a gagné la première partie. C'est-à-dire qu'on s'est débarrassé de Valls. C'est fini, Valls. Alors, je vous avais dit, Valls et Pisani, il fait la même chose, il finira comme Pisani. Ça a été encore plus vite que je l'imaginais. Et c'est fini. En plus, à chaque fois qu'il ouvre à Paris, comme il a fait dernièrement, il s'automutile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la suite nous a été racontée à sa manière par Harold Martin. Il rappelle d'abord que Sonia Backès a prévenu le président de la République du projet déposé par le ministre des Outre-mer dès le début de sa visite et que l'épisode suivant a eu lieu pendant le conclave d'Odeva.
Alors à Bouraï, à Deva, le premier jour, ils commencent leur réunion, ils prennent d'abord tous le petit déjeuner ensemble, bien sûr, à peu près une bonne ambiance entre les uns et les autres, à peu près, et ils se mettent autour de la table, et là, dès lors que la réunion commence, le téléphone de Valls sonne, et c'est le président de la République, donc il sort trois quarts d'heure. Et il revient au bout de trois quarts d'heure, il est rouge, il fume de partout, il dégouline de sueur, et il n'en peut plus, il est rouge comme une tomate, mauvais comme tout. Et il s'assoit à table, il est fou furieux, et il prend un parti Backès, il lui en met plein la tête, il la traite de tout, enfin c'est à la limite de l'admissible, quoi, à la limite de l'admissible. Il est fou, il ne se contrôle plus, il craque. Et donc là, il frappe très fort sur la table au bout d'un moment et il dit c'est fini, je lève la réunion. Peu de réunion. Donc tout le monde reste autour de la table, quoi. Donc tout le monde comprend qu'il a pris par conséquent une chauffe du président de la République. Parce que si le président de la République avait été dans son sens, évidemment, il serait arrivé goguenard à table, évidemment. Et c'est pas ce qui s'est passé.
Une interview d'Harold Martin à retrouver en intégralité, en audio et en vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
François-Xavier Bellamy est arrivé hier soir en Nouvelle-Calédonie et dès ce soir, il tient une réunion publique à 18h à l'hippodrome de Nouméa, à l'invitation du Rassemblement et des Loyalistes. Il doit notamment parler de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et des ingérences étrangères. Mais il a consacré sa première demi-journée à des déplacements sur le terrain auprès de chefs d'entreprise, Elisabeth.
François-Xavier Bellamy est venu en Nouvelle-Calédonie en 2023 et il suit de près l'évolution du territoire. Ce matin, le vice-président des Les Républicains et eurodéputé, voulait apporter son soutien à des chefs d'entreprise victimes des violences insurrectionnelles. Il s'est d'abord rendu à Ducos pour visiter NPS Ateco, deux entreprises au sein du même groupe dont les locaux ont brûlé le 14 mai 2024. Ses gérants ont retrouvé un dock deux fois moins grand et ils ont dû se séparer de la moitié de leur personnel pour relancer l'activité. François-Xavier Bellamy voulait être à côté de ceux qui veulent reconstruire et il est revenu sur les exigences du moment.
Il y a le sujet des assurances qui est un sujet majeur. Comment faire en sorte que les assurances honorent leurs engagements pour le passé? Comment faire en sorte qu'elles s'engagent à nouveau pour l'avenir? C'est leur rôle, c'est leur responsabilité. C'est bien sûr aussi la question de la stabilité politique et donc de la sécurité. Je suis heureux de constater aujourd'hui un peu partout des patrouilles de contrôle, de gendarmerie, des forces mobiles qui sont là. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'État clairement indiqué qu'il resterait mobilisé avec des effectifs importants et ça compte dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis, on voit ici... la nécessité de cette responsabilité politique. Il y a eu trois référendums, il faut respecter la parole qui s'est exprimée. Et ceux qui jouent avec le feu sont responsables de la catastrophe qu'ils créent. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que ceux qui se sont rendus coupables de ces méfaits soient réellement condamnés et qu'on puisse se tourner vers l'avenir sur des bases qui soient claires et saines.
François-Xavier Bellamy qui a été très marqué par la détermination des chefs d'entreprise qu'il a rencontrés.
Je suis impressionné par le courage de ces dirigeants d'entreprise qui sont repartis dès le jour d'après et qui, dans des conditions extrêmement dégradées, ont fait vivre leur entreprise, ont fait survivre leur entreprise. Et ce qui est très marquant, c'est de voir que voilà, dans cette entreprise qu'on vient de voir, vous avez des gens qui représentent toutes les composantes de la société calédonienne. Et je pense que c'est emblématique de ce que la Calédonie doit pouvoir vivre. Tous ces gens-là se battent ensemble et se remontent les manches pour tenter de reconstruire ce que l'irresponsabilité de quelques-uns a détruit. Mais cette Calédonie-là, on la reconstruira, c'est sûr.
Une visite importante aussi pour le gérant des sociétés Ateco et NPS, Cyril Grandjus-Parpandé, a transmis ses inquiétudes et ses préoccupations à François-Xavier Bellamy.
On se sent moins seul, parce qu'on est quand même seul. Aujourd'hui, on se bat contre les banques, on se bat contre les assurances, et puis après, on se bat aussi contre les fournisseurs pour essayer de trouver des modalités pour pouvoir payer. C'est surtout ça, on se sent moins seul, parce qu'aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours, c'est très très compliqué.
Et pourtant, vous y croyez?
Oui, parce qu'on n'a pas le choix, on est coupable de rien. Et puis quand on voit l'ensemble de notre personnel, on se bat pour nous, on se bat pour eux, et puis pour le pays, parce qu'on a raison.
Le député européen a ensuite visité le groupe Jeandot, qui a également été très durement touché par les violences insurrectionnelles. Une visite en présence notamment de la présidente de la province sud, Sonia Baquès.
La présence de François-Xavier Bellamy, elle est importante pour nous parce qu'il est un soutien du premier jour. Il est un soutien permanent sur tous les sujets. Le sujet des ingérences étrangères sur lesquelles il est intervenu, le sujet de la sécurité, le sujet de l'économie. Il est également le premier vice-président des Républicains et on a un soutien très fort de Bruno Retailleau, ça a été dit, en matière de sécurité. C'est essentiel pour nous d'avoir ce soutien et je pense que c'est aussi important que des responsables politiques qui nous soutiennent à Paris voient concrètement ce qui se passe ici. La dernière venue de Manuel Valls et sa proposition a, et c'est l'écho aujourd'hui qu'on a de l'ensemble du monde économique, cassé le léger frémissement qu'on avait de redémarrage. C'est-à-dire qu'on avait malgré tout un début de frémissement qui a été cassé par cette proposition qui panique des Calédoniens qui déjà ont du mal à retrouver la confiance.
Des propos recueillis par Nicolas Legrand, François-Xavier Bellamy a quant à lui déjeuné avec des chefs d'entreprise à Magenta.
François-Xavier Bellamy s'est ensuite entretenu cet après-midi avec la présidente du Congrès, Velma Falaeo, et à 18h, il sera donc d'ici quelques minutes en meeting à l'hippodrome de Nouméa. Il avait commencé sa journée avec le président du gouvernement, Alcide Ponga, avant de rencontrer le syndicat des industries de la mine. Demain, il poursuivra ses entretiens en rencontrant notamment le haut-commissaire Jacques Billon et il déjeunera avec l'association française des maires. Marine Le Pen aussi est en Nouvelle-Calédonie. La chef de file des députés Rassemblement National est arrivée hier soir en compagnie de Louis Alliot, le maire de Perpignan et premier vice-président du Rassemblement National, mais aussi de deux députés européens, André Rouget et Christophe Bay. Dès ce matin, Marine Le Pen et sa délégation se sont entretenues avec le haut-commissaire Jacques Billon avant de déposer une gerbe à la Croix-de-Lorraine et de s'arrêter au monument de la Poignée de Main, place des Cocotiers. Et dès ce matin, Marine Le Pen a présenté le projet du Rassemblement National pour la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
Marine Le Pen n'était pas revenue en Nouvelle-Calédonie depuis 2013, mais elle rappelle qu'elle s'y est toujours intéressée et qu'elle a suivi de près la situation des derniers mois. Elle vient aujourd'hui pour faire le tour de la situation et pour porter les propositions de son parti. Avec un rappel et une affirmation, le Rassemblement National est le premier groupe à l'Assemblée nationale et rien ne se fera sans lui. Dans ce contexte, Marine Le Pen estime légitime que son parti apporte des solutions à la situation calédonienne et c'est pour cela, dit-elle, que l'ensemble des groupes politiques ont décidé de la recevoir. Et très vite, elle dénonce l'obsession institutionnelle au détriment du développement économique.
Il m'apparaît que l'obsession institutionnelle, qui est celle du gouvernement, a un énorme trou dans la raquette, qui est le développement économique de l'île, la capacité à se projeter dans des grands projets économiques. Et pour l'instant, il faut bien dire que j'ai le sentiment que ça passe au second plan. Or, il m'apparaît que c'est ce qui peut, au contraire, permettre de cheminer ensemble, de donner un véritable espoir, réfléchir à que sera la Nouvelle-Calédonie dans 30 ans, au-delà de l'aspect institutionnel, car s'il n'y a pas de développement économique et de développement social de la Nouvelle-Calédonie, s'il n'y a pas un vrai rééquilibrage en Nouvelle-Calédonie, il n'y aura pas de stabilité institutionnelle.
La chef de file des députés Rassemblement National qui dénonce la méthode employée depuis des décennies en Nouvelle-Calédonie.
Je pense que la méthode n'est pas la bonne, c'est la même qui est utilisée depuis 30 ans, ça n'est pas la bonne. D'ailleurs, on voit bien que si c'était la bonne, si la réforme institutionnelle suffisait, probablement on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu en 2024. Mais j'ai le sentiment que depuis de nombreuses années, en ce qui concerne l'outre-mer, de manière générale d'ailleurs, à chaque fois que le gouvernement est incapable de faire preuve d'imagination, est incapable de faire preuve d'une réflexion, d'investissement pour les développements de nos outre-mer, il a trouvé une facilité consistant à essayer de tout concentrer sur les réformes institutionnelles. C'est comme si la réforme institutionnelle pouvait tout changer. Mais la réforme institutionnelle, elle ne permet pas la création de richesses, elle ne permet pas aux jeunes de trouver un emploi, elle ne permet pas aux familles de se projeter dans l'avenir, elle ne permet pas en réalité aux investisseurs d'avoir envie d'investir. Donc je pense que ça n'est pas la bonne méthode. En tout cas, seul, c'est évidemment pas la bonne méthode.
Et en conséquence, Marine Le Pen propose une autre méthode. Il faut, dit-elle, que l'ensemble des acteurs réfléchissent au développement économique et cela passe par le prix de l'énergie, la diversification agricole, le développement de la filière nickel ou encore l'exploitation des fonds marins. Et s'il n'y a pas de développement économique sans stabilité, Marine Le Pen dénonce aussi l'échec du rééquilibrage entre le Nord et le Sud. Pour la chef de file des députés Rassemblement National, le développement économique et le rééquilibrage sont les éléments essentiels. Et si elle ne veut pas se laisser entraîner dans le domaine institutionnel, elle confirme son projet d'un référendum dans 30 ou 40 ans.
Après, pour que ce développement économique se fasse, pour que les investissements se fassent, il faut une stabilité. Et vous comprenez bien, du coup, pourquoi on en arrive à potentiellement l'existence d'un référendum dans 30 ans ou 40 ans. C'est-à-dire laisser le temps, ne pas évacuer totalement la possibilité de choisir l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ne pas considérer que, sous prétexte qu'il y a eu 3 référendums, c'est terminé, on n'en parlera plus jamais, parce que ça, c'est pas crédible. Mais en revanche, avoir un délai suffisant pour que les investissements puissent se faire, pour que ceux qui sont partis de Nouvelle-Calédonie puissent revenir, pour que des nouveaux investisseurs puissent investir, pour que les médecins reviennent en Nouvelle-Calédonie. Et dans 40 ans, on verra bien ce que la population décidera dans le cadre d'un processus qui sera démocratique.
Marine Le Pen au micro de Léana Colombo et nous reviendrons plus en détail demain sur le projet du Rassemblement National pour la Nouvelle-Calédonie, puisque Marine Le Pen sera notre invitée du matin à 7h30.
Oui, Marine Le Pen et la délégation du Rassemblement National qui ont ensuite enchaîné les rencontres avec les différents responsables politiques institutionnels et se sont entretenus avec la présidente de la province sud, Sonia Baquès, avec la chef du groupe du Rassemblement, Virginie Ruffnac, avec la présidente du Congrès, Velma Falaeo, avec Mila Kulotukumuli de l'Éveil océanien et avec le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Ils finissent cette première journée par un entretien avec Jean-Pierre Jaywe, le chef du groupe Uni au Congrès. Demain, Marine Le Pen débutera sa journée, on le disait, dans les studios de Radio Rythme Bleu. Elle sera notre invitée du matin en direct à 7h30. Elle visitera ensuite la SLN avant de s'entretenir avec le président du gouvernement, Alcide Ponga. Avec sa délégation, elle se rendra ensuite au Sénat coutumier et elle fera un déplacement sur le terrain à Ducos pour constater les dégâts causés par les violences insurrectionnelles. Il est 18h passé de 4 minutes, une page de pub dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité et le gouvernement qui prend des mesures pour aider la population face à la crise. À tout de suite.
5 francs de remise sur le carburant grâce à votre carte senior et vos points fidélité x3.
Avec vos stations Shell et Pacifique, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 5 francs par litre tous les jours grâce à votre carte senior. Et encore mieux, avec votre carte fidélité Shell et Pacifique, faites x3 sur vos points en plus de la remise. Les stations Shell et Pacifique, toujours à vos côtés pour économiser.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'InfoSoir, Michael Juneski.
Des mesures en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat, étudiées ce matin par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il a examiné deux avant-projets de loi du pays, mais aussi un projet de délibération du Congrès, un projet de résolution et l'adoption de 16 arrêtés, Léo Fichot.
Le premier avant-projet de loi du pays concerne le soutien à l'emploi. Le texte propose des dispositifs favorisant l'accès à l'emploi des conjoints des citoyens calédoniens, une allocation de maintien dans l'emploi et des dispositions favorisant le retour à l'emploi des demandeurs par la réduction dégressive des cotisations patronales. Le chômage partiel spécifique exaction prenant fin le 30 juin prochain, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie entend mettre en place un dispositif exceptionnel. Les explications de Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement.
Le chômage partiel exaction s'arrêtait à la fin du mois de juin. Je crois que ça inquiétait beaucoup de Calédoniens, à la fois les salariés et les entreprises. Donc, dans l'accord cadre qui a été signé avec les partenaires sociaux, on a souhaité mettre en place un dispositif de maintien et de retour dans l'emploi, de maintien avec une allocation spécifique qui viendra soutenir les salaires des entreprises au sein des entreprises qui sont dans une difficulté mais qui sont en capacité de reprendre dans le futur, et un dispositif de retour avec une exonération dégressive des charges patronales pour que les entreprises qui sont en capacité et qui voient leur activité augmenter puissent réembaucher beaucoup plus facilement et avoir un coût du travail qui baisse. Les financements sont prévus jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, on a vraiment souhaité donner de la visibilité aux entreprises calédoniennes et aux salariés pour leur permettre à la fois d'être maintenus dans leur emploi et pour ceux qui l'ont déjà perdu, de pouvoir revenir dans une entreprise.
Et face à la crise économique actuelle et à la hausse du chômage, le gouvernement veut fluidifier le marché du travail tout en garantissant l'intégration des travailleurs qualifiés. Le Code du travail calédonien facilite déjà l'accès à l'emploi local pour les conjoints de citoyens ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité depuis au moins 2 ans. Les élus proposent de supprimer cette exigence de durée. On retrouve Christopher Gigès.
C'est un dispositif majeur, c'est de permettre aux conjoints qui remplissent les conditions de l'emploi local de pouvoir travailler en Nouvelle-Calédonie. C'était attendu dans beaucoup de secteurs d'activité, je pense notamment au secteur de la santé où on avait des médecins, des infirmiers, des infirmières qui ne venaient pas en Nouvelle-Calédonie parce que leurs conjoints ne pouvaient pas travailler. Là aujourd'hui, leurs conjoints pourront travailler directement dès qu'ils arrivent sur le territoire. Donc c'est vraiment une mesure, de fluidification de l'emploi, mais une mesure aussi d'attractivité pour la Calédonie. On avait aussi des citoyens calédoniens qui vivaient en métropole ou ailleurs, qui ne rentraient pas en Nouvelle-Calédonie parce que la personne avec qui ils étaient mariés ou pacsés ne pouvait pas travailler sur le territoire. Donc je crois que c'est un élément important.
Dans ce qui concerne le deuxième avant-projet de loi du pays, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie va injecter 629 millions de francs d'aide pour le pouvoir d'achat des Calédoniens. Les élus souhaitent prendre une série de mesures économiques et douanières afin d'agir sur les prix de produits les plus consommés, explique Christopher Gigès.
Oui, on a une vraie problématique sur les prix aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et une vraie problématique de personnes qui subissent le coût de la vie. Et donc, on a voulu, avec le gouvernement, réinjecter du pouvoir d'achat en faisant une exonération de droits de douane et de TGC de plus de 600 millions, en passant les produits de première nécessité de 15 à 60 dans les familles de produits de première nécessité. C'est un effort important pour la collectivité, mais c'est un effort qui est nécessaire. On vient notamment augmenter le nombre de produits alimentaires qui sont dans cette liste, mais également mettre d'autres produits qui ne sont pas alimentaires mais qui sont des produits d'hygiène ou autres. Cette liste sera fixée ensuite par arrêté quand la loi de pays sera revenue au gouvernement.
Enfin, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a émis un projet de résolution. Il s'agit d'une demande auprès de l'État d'un accompagnement sur l'aide aux fret, une aide déjà accordée au territoire d'outre-mer, mais pas encore à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
La durée du moratoire sur l'exploitation et l'exploration des fonds marins reste fixée à 50 ans. Cette durée est largement supérieure à celle de 10 ans proposée initialement par le gouvernement. Elle avait été rallongée par les élus indépendantistes lors de l'examen du texte en première lecture. 50 ans, une durée beaucoup trop longue pour les groupes loyalistes et rassemblements du Congrès qui avaient demandé une seconde lecture de ce texte. Ils proposaient un moratoire de 5 ans pour la prospection et de 15 ans pour l'exploitation et l'exploration. Mais cette proposition n'a pas été retenue, regrette Nadine Jalabert, élue rassemblement au Congrès.
Nos collègues ne nous ont pas suivis, mais c'est bien dommage parce que pour les générations futures, il s'agissait en fait de clarifier cette démarche pour mieux protéger, en fait. Bien sûr, il ne s'agissait pas de bloquer les recherches scientifiques, qui, bien entendu, continueront, mais c'était prendre le temps de la décision en faisant ce moratoire différencié. C'était un choix de raison et de responsabilité pour ce qui nous concerne. En tout cas, c'était poser un cadre évolutif basé sur le principe de précaution, mais aussi sur la concertation et la progressivité, le progrès. Donc nous déplorons que nos collègues ne nous aient pas suivis, mais en tout cas il nous a semblé que cette durée de 50 ans était tout de même excessive par rapport aux enjeux du 21e siècle.
Les loyalistes et le Rassemblement entendent toutefois poursuivre leur action pour faire baisser la durée du moratoire. Maintenant que le texte est passé en deuxième lecture, ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel qui aura 3 mois maximum pour rendre son avis. En bref, le conseil municipal du Mont-d'Or se réunissait ce soir. Il s'agissait du premier conseil présidé par Elisabeth Rivière, élue maire la semaine dernière en remplacement d'Eddy Lecourieux. Un changement qui nécessite des ajustements donc au sein du conseil. Ainsi, les élus devaient élire les adjoints au maire, se pencher sur la composition des différentes commissions et désigner les représentants du conseil dans les différents organismes extérieurs. On soulignera que Jean-Jacques Afchin est premier adjoint, Rousmaïni San Mohamed deuxième adjointe à la maire du Mont d'Or.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
L'actualité religieuse, c'est demain, jeudi, l'Ascension, une fête qui célèbre 40 jours après Pâques, la montée au ciel, corps et âme de Jésus. Écoutez les précisions du Père Ngo, prêtre de l'église du Vœu.
L'Ascension, c'est la fête que nous célébrons, la montée au ciel de Jésus, 40 jours après sa résurrection et aussi sa dernière apparition à ses apôtres. Comme nous avons entendu le dimanche dernier à l'évangile, « Je m'en vais et je viens vers vous ». Ces deux verbes sont toujours présents. Le message est que même s'il a quitté ce monde, il a quitté ses apôtres, mais il est toujours là. Au fait, l'ascension est déjà au jour de Pâques, parce qu'il est monté au ciel. Il est entré dans la gloire. Mais c'est pour nous montrer physiquement, humainement, que Jésus est toujours avec nous à sa résurrection. Les apôtres sont des témoins. Et maintenant, d'une manière officielle, est clair que Jésus monte au ciel et dans la gloire. Et pourtant, il est toujours avec nous par l'Esprit Saint, comme il avait promis.
L'Ascension marque la fin du temps pascal et elle annonce la fête de la Pentecôte qui sera célébrée le dimanche 8 juin, c'est-à-dire 50 jours après la fête de Pâques. Et demain, jour férié pour beaucoup d'entre vous, comme les scolaires, ce sera le début d'un long week-end de 4 jours. Notez que sur RRB, la grille des programmes s'adapte. Vous retrouverez Info Matin, votre grand journal du matin à 7h au lieu de 6h30. Info Mag, l'édition de la mi-journée à midi au lieu de 11h30. Il n'y aura pas non plus de magazine des jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Info Soir, votre grand journal de la fin de journée reste toutefois programmé à 17h45.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. 60% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS trouvent que la reprise de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie est un bon signe dans le climat morose que connaît le territoire. Ils sont 40% à ne pas partager cet avis. Notre question du jour. Le 31 mai est la journée sans tabac. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus incitatif pour arrêter de fumer? Si vous pensez que ce sont les risques pour la santé, vous tapez 1. Si vous pensez que ce sont les raisons économiques, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Coumac, c'est le 99.
Dans l'actualité de ce mercredi encore, en bref, on rappelle que c'est aujourd'hui la date fixée pour la fin du recensement. La campagne avait déjà été prolongée de 6 jours alors qu'elle devait s'arrêter initialement le 22 mai. Un recensement de la population effectué par les agents de l'ISEE, l'Institut de la Statistique et des Études Économiques. Le lancement du troisième appel à projet précarité menstruelle par la province sud, étant donné les difficultés d'accès aux protections hygiéniques pour les femmes dans le contexte actuel, les porteurs de projets sont invités à contacter la province. Les actions éligibles à cet appel à projet doivent se réaliser sur l'année 2026. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la province sud. La date de limite des candidatures est le 30 juin. 48 volontaires présentés au drapeau du RSMA de Coumac aujourd'hui. Une cérémonie s'est déroulée ce matin pour marquer la fin de leur formation militaire initiale et le début de leur formation professionnelle. Ils ont été incorporés en mai dernier. Après une prise d'armes, les jeunes Calédoniens ont défilé devant leur famille. Et puis toujours en province nord, une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires est lancée en prévision de la prochaine saison des feux de brousse. Une campagne de recrutement qui se déroule auprès du centre de secours de Conné avec la direction de la sécurité civile. Il est 18h passé de 15 minutes, restez avec nous. Après la pub, on voit toute l'actualité sportive.
Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine ? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments au chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Mickaël Juneski.
Et l'actualité sportive de ce mercredi soir, c'est du tennis avec deux Calédoniens qui disputeront dans quelques semaines la Coupe Davis, mais aussi la Billie Jean King Cup, Léo Fichou.
On connaît effectivement depuis quelques jours les sélections d'Océanie-Pacifique pour les compétitions internationales par équipe, la Coupe Davis chez les hommes et la Billie Jean King Cup chez les dames. Jusqu'à présent, les Calédoniens étaient sélectionnables avec l'équipe de France, mais désormais, ils peuvent jouer pour l'équipe d'Océanie-Pacifique. Et résultat, chez les hommes, on retrouve pour la toute première fois Nicolas Ngodrella. Il représentera fièrement la Nouvelle-Calédonie. Ce sera dès le 16 juillet prochain à Kuala Lumpur, en Malaisie.
C'est vrai que c'était un projet qui datait déjà depuis longtemps. Ça doit faire peut-être une douzaine d'années qu'on essaie de faire participer à la Coupe Davis. Et là, c'est un projet qui se réalise là. Donc, je suis assez content. Bon, j'ai pris un peu de l'âge depuis, mais j'essaie de me maintenir à un niveau assez correct et je suis vraiment honoré de faire partie de cette sélection pour la Coupe Davis. Je pense que c'est une récompense et c'est vraiment une joie pour moi et un accomplissement.
Aux côtés de Nicolas Ngodrella, on notera aussi la présence de Gillian Osmond, le Tahitien qui est bien connu sur le territoire puisqu'il a participé à plusieurs reprises au Challenger de Nouméa. Il était encore une fois l'invité cette année du BNC Tennis Open et il est forcément fier de participer pour la sixième fois à la Coupe Davis.
Bien sûr, un sentiment de fierté. Je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir représenter son pays et de la défendre contre d'autres. J'ai reçu un appel de David Smith, qui est un des représentants de la Fédération Océanienne de Tennis, me félicitant. Et à ce moment-là, je me suis rempli de joie et de bonheur, et surtout d'excitation par rapport à cet événement. Parce que voilà, tu joues pour ton pays, c'est une pression différente. Et voilà, j'en suis très reconnaissant. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'y être, de retrouver toute l'équipe en juillet en Malaisie. Et voilà, de faire toutes les prépas pour être prêt. Essayer de remonter en groupe 3 et de faire tout le maximum.
Du côté des dames, dans la sélection d'Océanie-Pacifique pour la Billie Jean King Cup, on retrouve Caroline Delaunay. La Calédonienne et ses coéquipières sont dans le groupe 2 et pourraient défier l'Indonésie, les Philippines ou encore l'Ouzbékistan. La compétition démarrera pour elle le 16 juin. Là aussi, ce sera du côté de Kuala Lumpur, en Malaisie.
Merci Léo Fichou. Il est 18h passé de 18 minutes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, 7 avec vous Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Mickaël. Alors cette nuit, des nuages persisteront par endroits en soirée sur l'est où quelques ondées résiduelles se produiront. Des bandes de nuages inoffensifs aborderont la côte ouest en début de nuit, puis le ciel se dégagera ensuite et deviendra partout bien étoilé. Le vent de nord-ouest dépassera légèrement les 10 nœuds, ailleurs il se rapproche de 5 nœuds. Les températures minimales perdront 1 ou 2 degrés sur l'ouest où elles descendront jusqu'à 14 degrés. Elles se maintiendront entre 19 et 22 degrés ailleurs. Demain matin, après un début de journée très ensoleillé, une bande nuageuse abordera le sud-ouest en fin de matinée. Les nuages se feront également plus nombreux aux Loyautés où quelques gouttes seront possibles. Le vent d'ouest à nord-ouest soufflera entre 5 et 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur le sud-ouest. Mickaël.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est la fin de ce journal. Prochain point sur l'info avec la rédaction des RRB à 19h. Dans un instant, place à l'actualité nationale et dans le monde. Et puis, vous retrouverez juste après l'interview d'Europe 1 ce soir. L'invité est Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Je vous souhaite pour ma part une excellente soirée, toujours sur RRB.